peux vous poser juste une question? Vous avez parlé du village,
De quoi?
du village là, que vous avez créé en
Ouais,
Espagne.
ouais.
Qu'est-ce
L'éco-village.
qui n'a pas marché?
Pourquoi il n'a pas
Qu'est-ce que vous...
marché?
Ouais.
C'est compliqué, hein.
Ouais.
Mais ça a à voir aussi, bien sûr, c'est quelque chose, un sujet d'étude
C'était un peu sûr.
qui nous permet de comprendre un peu. Eh bien, parce que, voilà, nous vivons dans un système qui a été monté au cours de maintenant 2 siècles, hein, et c'est quelque chose qui n'est pas facile à démonter. Non pas que le système soit en face de nous, mais il est en nous. Nous avons incorporé des valeurs. Nous avons incorporé des façons de fonctionner. La domination, ce n'est pas quelque chose dont on se débarrasse facilement. Il y a des réflexes conditionnés. Hein. Et puis, voilà, c'est aussi cet imaginaire qu'on n'arrive pas à se débarrasser. C'est pour ça qu'il nous faut un imaginaire fort, maintenant. Parce que cet imaginaire fort, maintenant, il arrive à ébranler cet imaginaire qu'on a incorporé inconsciemment. Donc c'est nécessaire, et c'est avec le travail de tous qu'on arrivera à se défaire de ça. Mais là, bon, par exemple, ben, il y a une prise de pouvoir pour essayer de s'accaparer des lieux. Voilà, simplement, quoi. C'est quelque chose de très courant, je veux dire. Mais surtout quand il y a des gens qui viennent et qui te disent, bon, on est d'accord avec vous, mais en fait, par derrière, ils ne sont pas d'accord, quoi. Bon, voilà, c'est un truc classique. Il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. Mais ça
Parce
permet
que
de... Non, mais tu as
là, vous
raison.
avez vu
Parce que
des...
ça permet d'analyser beaucoup de choses. Moi, j'en ai tiré des
Voilà,
conclusions.
justement.
Je suis pas. C'est comme Bookchin. Bookchin, il a eu plein de désagréments dans sa vie quand il était communiste et puis que tout s'est effondré autour de lui, alors que lui, il croyait à ça. Eh bien, il a rebondi là-dessus, quoi. Ça lui a permis d'aller au-delà et de comprendre encore plus qu'avant les phénomènes. Donc, je
C'est
crois que
intéressant.
c'est ça, sans cesse qu'on sort comme ça. Et...
Ça vient d'une question qui, à mon avis. Bon, la question qu'on pose toujours, c'est pourquoi ça n'a pas marché. La colonie de Sicile, qui était une expérience dans le Parana à la fin du 19e siècle, ça n'a pas duré 15 ans comme la tienne. Ça a duré même pas 3 ans. On en parle encore. Ce qui veut dire que ce qui a fait que ça s'est cassé la gueule, c'était probablement des choses qui sont arrivées chez vous aussi. C'est qu'autour, ben, il y a tout un système qui a dit, mais ces machins-là, ça nous amène à Zizanie, on va les éliminer. Mais qu'est-ce qui a fait qu'autant de gens s'intéressent à aller jusqu'au Brésil, depuis l'Italie, pour essayer quelque chose? Qu'est-ce qui fait que dans ton village, pendant 15 ans, vous avez tenu le coup? Qu'est-ce qui reste de ça? Parce que c'est là-dessus qu'on va rebondir. Comme Bookchin qui dit, il a rebondi après s'être rendu compte de son erreur, parce qu'il y avait quelque chose qui devait continuer et qui valait la peine. Dans ton expérience de 15 ans, qu'est-ce qui reste et qui est un enseignement, qui fait que ça
Bon,
vaudra la peine de le tenter?
nous on a pu tous les 3 mois publier une revue qui s'appelait La Hoja de l'Ecología Social. Et cette revue, moi quand je vais parler avec les gens, il y en a qui disent: Ah, ben oui, je me souviens de ça, tiens, il y avait ça, et vous avez fait ça. Bon, j'en parle et les gens s'en souviennent. Mais ça nous a permis aussi, pendant ce temps, de faire connaître les idées de Bookchin. On a pu développer, par exemple, il y a des bouquins qui ne sont pas édités en français. L'écologie de la liberté, nous on a réussi à publier. Bon, nous on y a mis notre grain de sel, quoi, là-dedans. On a fait en sorte que les œuvres de Bookchin soient publiées en Espagne. Et non seulement, enfin, on a aidé aussi à la faire connaître, quoi. Et
Des
depuis.
expériences vécues, parce que si ces publications, je ne sais pas, mais vous auriez pu les faire en habitant à Madrid ou à Séville, ou je ne sais pas, en
Ouais.
pleine ville, tu vois, dans le
Ouais,
monde.
mais ça prend du poids lorsqu'on essaye de mettre en pratique quelque chose.
Oui.
Je pense que les réflexions qu'on a par rapport à ça, par rapport à la, c'est quelque chose qui nous a beaucoup préoccupé, c'est la structure mentale, justement. Nos structures, comment le capitalisme nous habite, quoi. Voilà. Ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui nous oblige à être modestes et à la fois à être perspicaces dans la recherche des causes qui font qu'on ne réussit pas. Et je pense que si jamais on veut créer un mouvement vraiment solide et vraiment qui nous évite de reculer sans arrêt comme ça s'est passé et de s'effondrer, ben il faudra, c'est une question qu'il faudra aborder automatiquement, quoi. Et je pense que c'est une des choses aussi que les anarchistes espagnols ont bien vu pendant toute la période de développement, c'est-à-dire qui a duré 50 ans, ben ça a été de faire en sorte que les enfants, par exemple, aient une capacité d'apprentissage réelle, c'est-à-dire apprendre à apprendre. Et non, parce que c'était pas de former des anarchistes, c'était simplement de faire en sorte que les enfants aient cette capacité de comprendre le monde dans lequel ils vivaient et d'avoir tous les éléments à leur portée pour pouvoir le faire. Et donc je pense que ça, et de créer une contre-culture, c'est créer aussi des rapports différents entre les gens, quoi. C'est pas seulement une question intellectuelle, c'est une question émotionnelle. Et sur l'émotionnel, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit travailler énormément. Parce que tout ce qui se passe avant, dans l'enfance, dans la première enfance, c'est pas une question intellectuelle, c'est une question émotionnelle purement. Et cette émotion structure la mentalité. Si quelqu'un, par exemple, a une petite enfance où il a souffert des sévices, pour lui, la vie... Et c'est même quelque chose de dangereux, quoi. Alors que s'il a reçu les soins suffisants et qu'il a reçu l'amour suffisant et quelque chose de il aura une vision émotive beaucoup plus positive, quoi. Bon, ça, c'est un des sujets dans lesquels on peut... Et justement, c'est un des rayons qu'on va travailler aussi dans ces rencontres de Bilbao. C'est quelque chose... L'individu... Comment le capitalisme structure l'individu en ce monde maintenant, quoi, à l'époque où nous avons toutes ces technologies d'informatique qui remplacent souvent l'affect des personnes, quoi. Ça, c'est grave, quoi. C'est quelque chose qui doit nous préoccuper.
Peut-être pour rebondir là-dessus, on se pose beaucoup la question de comment appliquer des idées qui nous paraissent justes, que ce soit celle de Bookchin ou d'autres, dans la société dans laquelle on vit, notamment cette société, on peut dire suisse, mais on peut dire occidentale, qui est pacifiée, qui est très stable, qui est assez... qui a ses oppressions, mais qui sont assez latentes, finalement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément épanouis, mais il n'y a pas assez de souffrance pour que ça réagisse, finalement. Il n'y a pas assez de choses qui ne vont pas pour qu'on aille se dire il faut changer le système. Et pourtant, il faudrait changer le système parce que le problème, il est latent. Et le problème notamment posé par l'écologie, par les sols, par la pollution de l'air, en tout cas la dégradation de ce qu'on mange, il est global et on va le sentir. Mais du coup, ce qu'évoque Floréal avec cette intériorisation de la domination et des structures un peu oppressives, elle est importante, et c'est peut-être la question à laquelle nous, en tant que citadins, que membres d'un pays en paix, on pourrait se poser si on veut justement évoluer en tant que personne. Je pense que c'est peut-être un des points sur lesquels on aurait, nous, à nous poser comme question, plutôt que, comme l'avait proposé Bookchin, de développer des assemblées politiques, d'essayer de regrouper les gens, parce qu'on sent que ça prend pas. En tout cas, moi, c'est mon sentiment, c'est que si vous dites aux personnes, bon, on fait une assemblée populaire tous les vendredis soirs, venez, ça va durer 4 heures, ils vont dire, non, j'ai pas le temps, je suis fatigué, j'ai mon boulot. Et c'est vrai, les gens, ils ont tout ça, ils ont leur famille, ils ont leurs enfants, ils ont leur travail. Ils n'ont pas envie de passer des heures à débattre de politique, à comment s'organiser. Il faut trouver quelque chose qui leur parle à quelque chose qui les touche directement, quelque part. Et là, il y a un défi qui se pose à nous, je pense, pour réussir à appliquer l'écologie sociale à ce niveau-là. Et qu'ensuite, ça va se répercuter sur la politique. Et les gens, une fois qu'ils auront compris qu'ils peuvent changer les choses, ils vont, je pense, d'une manière ou d'une autre, utiliser ça dans leur vie et puis le partager avec d'autres. Et ça pourrait germer par ce biais-là. Beaucoup plus que comme ça a été le cas au Kurdistan ou en Espagne ou chez les apatistes, où c'était un moment de guerre qui a fait qu'il y a eu un changement politique. Il y a eu d'abord une instabilité politique et matérielle, des gens qui étaient très pauvres, qui se sont révoltés. Mais je pense qu'en Suisse et en Europe, d'une manière générale, en tout cas en Europe industrialisée, on n'aura pas ça. Ces conditions, avant que tout s'effondre et qu'il soit en 10 mètres trop tard, ce sera difficile. Mais jouer sur la vie quotidienne et sur le désenchantement de la vie quotidienne, c'est peut-être là où on a appuyé. Ouais.
Là, je crois que ça va jouer à ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et ils ne savent pas comment... Ils n'ont pas les canaux, ni de réflexion, comme tu dis, la structure mentale et surtout les exemples, mais effectivement des exemples en temps de paix, pas en temps des exemples qui puissent être qui peuvent nous inspirer dans notre société actuelle, mais surtout ils ne savent pas comment s'y prendre. Et il y a quand même un concept qui émerge, évidemment, tous ces concepts, on en remet des tas de significations différentes, mais la notion d'empowerment est quand même intéressante, me semble-t-il. Elle peut être manipulée, mais de donner déjà confiance aux gens, qu'ils comprennent qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire, qui ne sont pas juste des outils du capitalisme ou de la société dominante, qu'ils peuvent faire des choses. Donc de leur donner ce genre d'exemple, mais aussi j'ai bien apprécié l'idée de parler d'émotionnel, parce qu'effectivement on ne gère pas, puisqu'on l'a relayé aux billettes, hein, tout ce qui était émotionnel, c'était féminin, et donc c'était faible, et donc c'était mauvais, enfin c'était pas intéressant, et on le voit encore beaucoup dans beaucoup de domaines dominants, quoi. Donc, savoir apprendre à gérer l'émotionnel, et puis effectivement, on a une structure mentale qui fait qu'on va classer les choses dans la tête de telle manière et qu'il faut apprendre moi, ce que j'essaie de faire depuis quelques dizaines d'années, c'est de me brainstormer à la mentalité des peuples autochtones, tout en sachant qu'il y a beaucoup de peuples autochtones différents, mais il y a quand même beaucoup de choses proches aussi de Bouxine. Et j'ai pris le parti de me laver le cerveau à partir des délégations des peuples autochtones qui viennent à l'ONU. C'est très intéressant. Allez-y, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais je pense que oui, on doit être conscient qu'on doit changer ce qu'on a dans la tête. Mais il y a beaucoup de gens qui souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, mais ils ne savent pas comment faire.
Ou alors ils savent comment faire et ils achètent un iPhone, un cinéma, ils font des tas de trucs comme ça. Et une question qu'on peut se poser, c'est bon, dans quoi on s'est trompé? On n'arrive pas à se poser cette question. Peut-être que c'est une mauvaise question. On pourrait se demander pourquoi eux ils réussissent. Pourquoi
moi j'ai levé la main depuis un moment.
Il y avait une main aussi par là, je crois.
Alors je vais faire circuler la parole. Après il y aura Daniel, mais
juste l'idée, qu'est-ce qui fait que les gens, je crois, peuvent choisir les 4 heures d'assemblée populaire et ils ont autre chose à faire. Et en quoi cette autre chose est bien? Qu'est-ce qu'on peut tirer de nous comme leçon de ce qui peut être attrayant, de ce qui a. Parce qu'au fond, voilà, il y a peut-être quelque chose à trouver. Je n'ai aucune idée, hein, mais je me dis peut-être une fois de réponse que je vois.
Moi je voulais. Là on revient de la campagne, d'un petit village vers Sisteron. Et en fait, depuis, je veux dire, la pensée de Bouxine, mais d'autres pensées d'écologie et puis d'autres mouvements, enfin, il y a tout. L'histoire, elle ne se résume pas à maintenant ici à Genève, en ville. En ville, il y a une sélection négative. Je veux dire, il y a quand même énormément de jeunes qui sont partis faire des expériences à droite, à gauche. Et ces expériences, elles existent. Elles se cassent la gueule, évidemment, mais. Elle décème, elle se recompose, il y a toute une vie et c'est vrai qu'il y a nos médias ne relatent pas ça, cette histoire. Cette histoire, il faut se la réapproprier, c'est-à-dire il y a tout un à se réapproprier un rapport ville-campagne parce que la ville isolée de la campagne et de l'expérience qui se passe à la campagne, c'est la misère. Donc il faut notre background, il y avait un Lyotagui qui était un naturaliste et il disait il vaut mieux être adossé à une haie d'aubépine que adossé à un mur de certitude. Parce que l'aubépine, bon, ben, ça peut être une graine pas très comestible, mais on peut faire de la farine et puis on peut manger avec. Je pense qu'il y a, la recherche de l'autonomie. Enfin, moi, j'ai navigué entre la ville et la campagne depuis que à 17 ans, j'ai découvert les écrits de Bouxine. Et je sais qu'à la campagne, il y a tout un tissu qui s'est construit d'expériences diverses et variées. Mais il y a une coupure entre la ville et la campagne. Cette coupure, elle est due à la prise en main des médias par des forces financières, par des forces politiques, par des courants. Même un journal comme Le Courrier à Genève, il n'y a pas beaucoup de le rapport ville-campagne, il n'est pas exprimé de la même façon qu'il y a quelques années en arrière, parce que c'est un peu une culture, justement une culture, une contre-culture qui s'est un peu perdue, qui était très forte dans, à la fin des années 70, mais qui maintenant s'est un peu délitée, quoi. C'est-à-dire la culture dominante, elle est vraiment dominante. Et donc, moi je pense que c'est surtout, c'est vraiment au niveau culturel, c'est-à-dire le rapport ville-campagne, bouger, aller voir ce qui se passe à la campagne et de faire des allers-retours parce que en ville, 3 jours d'autonomie. On aura beau faire des mouvements, des machins, des. Voilà. C'est-à-dire, ce qu'on développe en ville comme moyen, etc., c'est très limité. Après, on peut faire des squats, on peut faire plein de choses, des manifs, des trucs, mais. Si vraiment il y a un mouvement fort qui se développe, en 3 jours on affame une ville et puis c'est fini, quoi. On a 3 jours d'autonomie alimentaire. Donc notre autonomie, elle est quand même à la campagne, c'est-à-dire dans les rapports avec en périphérie, tous les groupes comme les Jardins de Cocagne, toutes ces expériences-là aussi, localement, l'agriculture contractuelle, enfin toutes ces expériences-là, c'est vraiment ce tissu-là qu'il faut fédérer et fédérer des parcelles d'autonomie, c'est-à-dire de combattre le capitalisme, mais dans une forme où les gens ils peuvent quand même se nourrir dans ce système, et pas, c'est-à-dire de créer des structures qui soient vivables dans ce système, mais qui ont une vision à long terme d'une transition vers quelque chose, vers un autre système qui n'est pas ni étatiste ni capitaliste.
Je voulais faire certaines analogies par rapport à la mouvance kurde, la théorie des compétences démocratiques qui a mis en œuvre. C'est vrai que vu du dehors, c'est un grand mouvement, un mouvement très énorme qui touche un peu tout le Moyen-Orient. On est organisé aussi ici en France, en Suisse, un peu partout. Une théorie globale qui sont basées d'ailleurs sur les théories de Pushkin. Le confédéralisme démocratique n'est rien d'autre que l'application des idées de Pushkin au Moyen-Orient, où il y a des choses qui ont été un peu plus développées, qui seront certainement aussi plus développées parce qu'il n'y a jamais quelque chose de fixe. Mais on est confronté, moi je vois ça au quotidien, je veux dire, même s'il y a une élite, même s'il y a certaines personnes qui ont très bien intégré au niveau théorique cette idéologie, cette philosophie, cette approche, ce paradigme, on le voit au quotidien, je veux dire, au niveau de Genève, quand on est actif, quand on voit la population kurde, etc., on regarde que les comportements de tous les jours, les approches, c'est des approches capitalistes, c'est des approches hiérarchiques, c'est des approches de pouvoir. Je veux dire qu'on dans une relation qui est censée être une relation amicale de camarades, quand ils voient que certains utilisent les faiblesses des autres pour se faire un peu plus de pouvoir, une meilleure place, ou une lacune de l'autre, ou une erreur de l'autre pour se faire une place, ben là il y a déjà le capitalisme. Je veux dire, alors tu peux faire tous les sacrifices que tu veux à notre niveau. Je veux dire, tu peux avoir des jeunes, tu peux avoir des dizaines de milliers de jeunes ou des centaines de milliers de jeunes qui sont prêts à se sacrifier pour un idéal. Mais si à la base, au niveau structurel de la base, au niveau de la population, si ça fonctionne comme ça, si au niveau de la pensée, la structure de la pensée, de conceptualiser, si tu n'as pas réussi à ramener ça à la base, en fait, ta révolution, elle aura servi à rien du tout. Il y a une définition que moi je tiens à préciser, où on définit aussi les structures capitalistes, les structures hiérarchiques comme étant une structure de viol, un phénomène de viol. Alors, ça peut paraître bizarre, mais je vais les définir un peu plus. Un viol, ben, au niveau classique, c'est un homme qui viole une femme. Mais avant de violer une femme, il faut le penser. Ah oui, un viol, il ne se fait pas sans avoir été pensé. Je veux dire, il faut qu'il soit réfléchi, il faut que ça passe par la tête. Mais si on part du fait que le capitalisme est basé sur la culture du viol, c'est une relation qu'on a tous les jours, d'homme à homme, d'homme à femme, même quand on discute. Quand on parle des émotions qui sont enfouies, qui sont coupées, on dit est-ce qu'on souffre moins, est-ce qu'on souffre plus ou pas, on souffre pas moins. C'est faux de dire ça. Peut-être qu'on souffre même plus. Peut-être qu'on souffre plus et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à réagir. On souffre tellement, il y a tellement de blocages, il y a tellement de traumatismes, il y a tellement peu d'espace, il y a tellement de viols comme ça, très fins, très dissimulés, très dirigés, très contrôlés, qu'on n'arrive même plus à les voir. On ne le sait même plus, mais en permanence dans nos relations, c'est ce qu'on fait. Et encore une fois, ce phénomène-là, ce phénomène, cette structure intellectuelle, cette structure culturelle, cette relation culturelle, on le voit aussi chez nous, les Kurdes. À la base, on le voit, on n'arrive pas à le dépasser. Parce qu'on sait que c'est le reflet de la relation de l'homme à la femme, de la relation de l'homme qui domine la femme, et que cette structure, elle est tout au fond. Elle fonctionne et elle continue de foncer. Et c'est vrai que peut-être que ça nous demande encore des décennies. Et peut-être qu'on n'arrivera pas. On fera tout pour essayer, mais peut-être qu'on n'y arrivera pas. Alors voilà quoi, le constat.
Moi, j'aimais bien le mot que Daniel a utilisé, SME. Parce que on est tous dans des histoires différentes, des métiers différents, des pays différents. Là, on est en paix. Voilà, peut-être demain, on sera en guerre. Hier, on était en guerre. Ou peut-être demain, on sera en paix. On ne sait pas. Mais j'aimais bien, par rapport au film, le fait qu'il redevienne petit. C'est-à-dire, on ne parle pas de pays, on ne parle pas de région, on ne parle pas de canton, pour nous, de province. On parle de municipalité, on parle de quartier. J'aimais bien ce côté où on revient dans le petit. Et quelque part, dans le petit... Par rapport à mon expérience de beaucoup de réunions, des mouvements squats, des mouvements un peu alternatifs, d'écologie, de voilà, un peu comme tu dis, des choses un peu, les échos, quartiers ou groupes, etc. Je m'aperçois qu'en fait, par rapport à la violence, la douceur, le fait... Petit, c'est toujours celui qui n'a pas le pouvoir de dire quelque chose. Contrairement à moi, par exemple, maintenant, tout le monde m'écoute. Voilà, j'ai un pouvoir. Voilà. Le petit, il ne va même pas prendre la parole. Voilà. Et nous, moi, je suis en paix, je peux parler... c'est les gens honnêtes, tu parlais des gens honnêtes, des groupes intègres. Je ne sais plus quel mot tu as utilisé. Voilà. Je suis sûr que dans ton village, ton éco-village... comme tu dis, les histoires de territoire, de maison, de machin, et des fois c'est même encore plus vil, hein, c'est la pierre qui va tenir la tuile, enfin je veux dire, des fois c'était très trivial, pourtant chez des gens de gauche, militants, machin, qui critiquent le système, etc. Voilà, donc tout est là en fait, finalement chacun dans son métier, dans son moment... Quand il est là, dans ce qu'il est, quelle marge de manœuvre il a, et jusqu'à quel point il est dupe, et jusqu'à quel point il cautionne ce qui est dit ou ce qui n'est pas dit. Il ose, tu parlais de oser, se mettre en avant, ce n'est pas toujours facile. Hein. On devient chaud un peu, c'est un peu incommode comme ça. Quoi. On ne peut pas demander à tout le monde de le faire tout le temps. Voilà. Mais c'est ce truc de ne pas être dupe. C'est-à-dire que quand les gens parlent, on peut choisir de rien dire, mais on n'est pas dupe. Et après, dans l'action, qu'est-ce qu'on fait ? Là, ça manque de douceur. Là, ça manque vraiment de douceur. Et moi, le premier, je manque de douceur avec mon épouse, je manque de douceur avec mes enfants, je manque de douceur avec mes collègues, 9 fois sur 10. Alors maintenant, au bout de 50 ans, je me suis fait opérer du cœur, donc là, je suis plus doux, par exemple. Voilà, donc il n'y a rien de tel pour... Puis après, on peut dire, c'est la faute de ci, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ça, mais quelle est notre marge de manœuvre? Et qu'est-ce qu'on fait au moment où on s'en rend compte? Parce que c'est ça. Moi, je suis un crétin qui a lu 15 livres en 45 ans. Voilà, peut-être certains, ils lisent 15 livres. Ma femme, elle lit 15 livres par mois. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on se rend compte des choses? comment on amène le leader, par exemple, à modérer, à prendre en compte, à s'adoucir, ou comment on amène justement le petit à se risquer, etc. Et je pense que c'est le propre des gens qui ont de l'expérience et peut-être la maturité ou la connaissance de comprendre tous ces enjeux. Parce que même dans les mouvements soi-disant politisés de gauche et tout machin, souvent les minorités, ils sont complètement repliés sur eux-mêmes, et encore plus quand ils sont dans des périodes de conflit. Ils sont, c'est exacerbé, les enjeux, les intérêts sont encore plus de survie. Voilà, les peurs, elles sont encore plus fortes, la violence est encore plus forte, etc. Mais comment on agit par rapport aux autres? Comment? Et c'est ça, je pense que tout est là. Quand on se rend compte, quelle est notre marge de manœuvre? Et souvent, moi-même, je suis trop violent dans ma manière de m'adresser aux autres. Et parfois, je ne suis pas assez. Et donc, c'est cet équilibre que je trouve que par exemple, quand j'écoute cette personne, c'est très violent au niveau du contenu, mais il le dit d'une manière en plus assez, virulente, mais finalement très douce. Il n'y a pas de violence dans ce qu'il dit. Ce n'est pas fait d'une forme de violence. C'est une violence que j'accepte. En fait, c'est ça. Pour que les gens changent, il faut que la violence, elle soit, pour moi, après j'arrête, d'une certaine manière acceptable, parce qu'un ressenti commun, hein, il y a plus de... Moi, je souffre trop, j'ai envie de faire quelque chose, mais en même temps, si je vais réagir, je vais faire comme mon père, je vais sortir la ceinture ou le fusil, et donc je n'ai pas envie de faire ça. Donc je suis coincé un peu dans mon statut, dans mon milieu, dans ma génération et tout. Et c'est ce truc de passerelle que je trouve qu'on devrait développer vraiment tout le temps et sans cesse, quelle que soit l'issue.
Peut-être pour compléter ce que tu dis, je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un grand enjeu. Et quand on se dit qu'est-ce qu'on peut faire, bah, peut-être juste déjà de parler de ça et de l'exprimer, et puis de se rassembler comme ici, comme on le fait, de débattre de ces choses, c'est peut-être justement la première étape, quelque part. En tout cas, quand nous, on a lancé ces rencontres de Lissignol, avant ça, on se rencontrait entre nous, en fait. On était comme ça, un petit groupe de 4 ou 5, et on s'est dit, on se rencontre pour discuter, pour échanger de sujets qui nous intéressent. Puis après, on s'est dit, il faudrait élargir, il faudrait faire des rencontres pour plus de gens, parce qu'on était dans une petite cuisine, on pouvait pas accueillir tout le monde. On s'est dit, il faut trouver une plus grande cuisine, quoi. On a trouvé ici, mais ça, je crois que ça commence comme ça. Ça commence, le premier pas, c'est toujours de se rassembler, surtout qu'on est dans un système qui essaye de nous individualiser. C'est plus facile quand les gens ils sont pas rassemblés, tu les prends un par un, et ils savent pas quoi faire, ils se sentent seuls, ils se sentent impuissants, et c'est très facile. Et peut-être que la première étape, c'est peut-être ça, justement. Se rassembler, échanger, discuter, voir qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on a de différence, et grandir par l'échange de nos connaissances, de nos relations, de nos affinités, de nos intérêts, etc. Et je pense que ça, c'est déjà une bonne chose, à mon avis, quoi. Essayer de revenir actif dans un monde qui essaie de nous rendre passifs par déjà le lien social. Et l'écologie sociale, ça évoque un peu ça aussi, de retrouver ça.
Je peux aussi rebondir sur ce que tu viens de dire. Si je prends la parole à personne, M. Parodi, tout à l'heure, que je prenais la parole et je n'aime pas ça. Deux choses, je pense que, très globalement, peut-être que les femmes et les hommes n'ont peut-être pas tout à fait le même parcours à faire, parce que nous, on a plutôt besoin de nous affirmer, si possible, pas n'importe comment, ce qui parfois nous arrive, mais... je crois qu'on a peut-être plus besoin de nous affirmer, les hommes ont peut-être besoin d'un petit peu plus de se retirer. Et puis, quand on parle de se rassembler, oui, mais moi je verrais surtout des rassemblements où on développe une camaraderie, une entraide, quelqu'un qui a besoin de quelque chose, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'aide, qui sait le faire, ou elle sait le faire. Ça peut être une entraide tout à fait spirituelle ou de... Enfin, spirituelle. Peut-être pas, mais en tout cas, de camaraderie, quoi, intangible, quelque chose comme ça, qu'on ait une bonne atmosphère entre nous, déjà. Tu parlais beaucoup de relations, il y en a plusieurs qui parlaient d'interrelations, je pense que c'est très important, c'est ce que moi j'ai découvert aussi en travaillant avec les peuples autochtones, c'est qu'ils ont très souvent une manière d'établir des relations, j'aime pas trop le mot harmonie, parce qu'il a tellement été galvaudé, mais de relations assez... Quoi, où chacun peut s'exprimer déjà
et où on essaie d'aller, oui, de faire en sorte que les choses se passent bien. Voilà, peut-être que c'est ça qu'il faut dire. Donc il me semble que oui, c'est bien de discuter, d'être autour de ça, mais je pense qu'il faut surtout aussi beaucoup d'entraide qui peut être faite de manière très, très actuelle. Voilà. Et puis j'aimais bien le terme chez Bouchine, que j'ai connu, hein, d'humilité.